vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 120. Bisous sur l'oreiller, Jiangbin Li Dimae. Ah, chers amis, bonjour. On va bientôt être en vacances. Voici le temps des congés. À la radio, ce sera la grille d'été. Et aujourd'hui, nous avons un sourire d'un quartier lointain. Un sourire alsacien, artistique et strasbourgeois. Un sourire qui a voyagé depuis la Corée. Et nous voilà bien inspirés, tout bien considérés, au propre et au figuré, et sans que cela soit démesuré, c'est le moment déclaré que cela nous fascine la Corée. Bonjour Jiangbin Li, bonjour Dimae.
Bonjour, je m'appelle Dimae, et je suis artiste et je travaille ici à Strasbourg, oui, et moi, je viens de la Corée du Sud.
Alors Dimae, c'est votre nom d'artiste. Alors oui, alors il faut préciser du Sud, pas du Nord.
Non.
Oui, mais vous auriez pu être une dissidente et enfui le Nord.
Oui, oui, et voilà. Heureusement, oui, oui. Du Sud.
Du Sud. Alors, Dimae, c'est votre nom d'artiste. Alors, vous êtes à Strasbourg depuis 8 ans. Hein. Alors, j'ai vu dans des expositions vos œuvres. Ce sont des objets qui jouent avec notre quotidien. Vous faites des installations basées sur l'observation. Vous vous inspirez des messages que l'on peut échanger en toute banalité et vous vous mettez vous-même en scène en dansant alors, autour de gobelets et tout cela pour un beau travail de clip vidéo. Alors, Jiangbin, d'abord, ça c'est votre prénom. Mm-hmm. Et, alors dites-moi ce que signifie votre nom d'artiste Dimae.
Alors, Dimae, c'est moi qui ai choisi ce nom. C'est la sonorité que je me suis référée avec la date de mon anniversaire,
et le 10 mai. Le 10 mai.
Voilà.
Voilà, c'est formidable comme histoire.
Oui, au départ, en fait, je n'avais pas l'idée d'avoir en fait, un nom d'artiste particulière parce que j'aime bien mon nom coréen, mon prénom coréen, Jiangbin. Et un jour, je me dis, ok, le 10 mai, la sonorité, c'est quand même belle. Voilà, comme ça, j'ai choisi en fait ce nom. J'ai donné en plus une touche magique dans l'orthographe. Voilà, je suis devenue Dimae.
Voilà, bah, écoutez, un jour, je prendrai un pseudo et je m'appellerai 13 mars.
Waouh.
Waouh. Je sais pas, mais ça ne sonne pas aussi bien que Dimae.
13 mars. Oui.
Alors justement, je cherchais l'autre jour le nom sur les bateaux. Comme on dit, c'est Mayday, qui veut dire aidez-moi, le SOS sur les bateaux.
C'est vrai.
Mayday.
Oui.
Ça rime avec Dimae.
Ouais.
Voilà. Alors, on va parler de votre carrière ici à l'Université de Strasbourg et peut-être de votre nostalgie, peut-être de la Corée. Et vous êtes aussi actrice.
Hein? Je suis actrice.
Actrice, oui, j'ai vu votre photo sur Internet. Alors, c'est terrible, Facebook, où c'était marqué votre nom. Alors, c'est peut-être une homonyme.
J'étais...
Il y avait une photo.
Si je m'en souviens bien... j'ai pas une carrière actrice, mais...
Mais vous avez posé comme actrice dans dans une société qui essaye de promouvoir des acteurs il y a quelques années. Bon, écoutez...
D'accord.
Bon, écoutez, ouais. On est tous quelqu'un d'autre, donc
oui.
C'est formidable.
Ça marche.
Et je voudrais commencer par décrire une de vos œuvres.
Mm-hmm.
Que j'ai vu dans l'atelier où
oui.
Vous exposez lors des portes ouvertes, c'est un oreiller suspendu au milieu d'une pièce par des fils transparents, excusez-moi, et avec son étiquette de fabrication bien apparente. Alors ça, c'est une œuvre d'art. Racontez-moi.
Oui, en fait, c'est une pièce que j'ai fait depuis il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près. À partir de depuis 2023. Alors, en fait, il y avait une exposition que j'ai organisée dans une chambre d'hôtel à Paris. Et du coup, dans ce cadre de cette exposition, moi, en tant que commissariat et en même temps en tant qu'une artiste participante, j'ai créé une étiquette d'oreiller. Et du coup, dedans, c'est écrit mon nom d'artiste, Dime, et aussi mon statement artistique, ouais, qui est bien raccourci et écrit en coréen, anglais et français. Et du coup, à ce moment-là, à cette nuit, j'ai cousu sur l'oreiller que j'ai dormi dessus dans ces chambres d'hôtel. Et depuis bah, cette nuit, à chaque fois que je voyage dans un autre pays ou dans une autre ville, pour un voyage d'affaires, dans une chambre d'hôtel, chez une amie ou chez un ami, ou soit chez un Airbnb, je cousis toujours en fait sur un oreiller que j'ai dormi dessus.
Vous mettez cette étiquette?
Ouais, je mets cette étiquette à chaque fois.
Donc c'est une exposition qui est dispersée dans le monde entier.
Tout à fait. Oui. Ouais. Du coup, pour l'instant, en ce moment, j'ai passé à peu près 30 de lieux différents. Et ça veut dire qu'en ce moment, actuellement, j'ai 30 expositions permanentes ici et là, partout.
Mais les gens ne le savent pas.
Non, en fait, c'est une intervention un peu clandestine. Et j'aimerais bien, en fait, juste un jour, quelqu'un qui va découvrir par surprise.
Oui, et il y a votre adresse ou il y a une façon de prendre... Oui,
il n'y a pas mon adresse, c'est juste qu'il y a mon compte Instagram.
Oui.
Parce que moi, ça me paraît un peu bizarre que je mets mon adresse de mail, mon numéro de téléphone.
Un peu compliqué, oui.
Oui, voilà. Voilà.
Et donc, c'est une idée formidable, ça.
Alors, merci.
Vous savez que les Beatles, lorsqu'ils ont fait leur tournée, notamment au Japon, le patron de l'hôtel où ils ont dormi, il a gardé les oreillers parce que John Lennon a dormi sur cet oreiller. Je crois même avoir lu qu'il a découpé l'oreiller en petits bouts de tissu pour le distribuer aux fans des Beatles. Voilà.
C'est marrant,
donc
oui.
Peut-être un jour que vos oreillers vont avoir une renommée extraordinaire et tout. Alors, à part les plumes des oreillers, quelles sont vos autres activités artistiques aussi, disons, surprenantes?
Surprenantes. Et en même temps, j'organise chaque année l'exposition qui s'appelle Invisible. Et du coup, première édition, c'était dans une chambre d'hôtel à Paris. Deuxième édition, c'était sur podcast collaboré avec un autre artiste qui s'appelle Pierre Croissant. Et troisième, c'était l'année dernière à Venise. Du coup, dans le cadre de Biennale de Venise, j'ai organisé une exposition invisible intitulée « Papillon invisible ».
Donc, ce sont des œuvres invisibles.
Voilà.
Donc, les spectateurs se déplacent pour ne rien voir?
En fait, les spectateurs, spectatrices, on peut toujours regarder les œuvres. C'est juste qu'ils sont bien discrets. Et du coup, il faut faire juste attention à découvrir des belles choses à chaque coin et au coin.
Alors, c'est comme un jeu de piste, vous mettez des petits indices pour savoir quoi regarder?
Ouais, sur place, il n'y a pas vraiment les indices, c'est plutôt l'archive photo qui est, par exemple, photo ou soit image, texte. Ça donne un peu la présence des pièces ultérieurement, pas tout de suite sur place. Et du coup, sur place, c'est plutôt en fait une tentative de chercher... une autre dispositif d'exposition qui ne sont pas très classiques, pas dans une white cube, pas juste dans un espace institutionnel. Bah, comment on peut montrer, comment l'art pour se vivre, autre cadre.
Bon, l'invisible, comme ça, c'est à la fois ludique, mais en même temps, c'est une vraie réflexion philosophique. Hein, mais en même temps, alors il y a la petite phrase là, qui me vient à l'esprit, tarte à la crème, on n'aime pas, enfin, quand on aime avec son cœur, c'est invisible pour les yeux. Vous savez, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui dégouline de bons sentiments, et on embête tous les enfants avec ce texte, tarte à la crème, je dis bien.
Oui.
Mais l'invisible, c'est aussi une dimension mystique.
Tout à fait.
Oui.
Ouais. Dimension mystique, et moi plutôt je dirais, pour moi ma définition d'invisible c'est plutôt clandestine, ça
clandestin.
Veut dire ouais, clandestin, oui. Ouais. Parce que des fois on peut dire que ça existe mais c'est pas visible à nos, ouais. À nos yeux.
Est-ce qu'on est sûr que ça existe ou est-ce qu'on croit que ça existe?
Du coup, première définition c'est ça, ça existe mais on ne voit pas. Deuxième, ça n'existe pas.
C'est comme le bon Dieu.
Voilà.
Il n'existe pas, mais on...
Ça n'existe pas, mais on aimerait bien que ça existe.
On aimerait, oui. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie,
C'est Jacques Prévert qui raconte ça. Jacques Prévert qui a... alors, je fais pas des blasphèmes, hein, là. Il y a même des écoles qui portent le nom de Jacques Prévert. Donc, on a le droit de dire que Dieu n'existe pas.
Ouais.
Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi Strasbourg pour votre carrière artistique?
C'est vraiment très simple. Quand je suis venue en France, j'étais à Poitiers d'abord. J'ai appris la langue française. Et puis, j'ai fait un tour de France pour passer les concours d'entrée. Du coup, j'en ai passé pas mal de concours d'entrée, des écoles d'art ici et là, partout. Et puis, je suis retenue à ce moment-là quelques écoles d'art. Et une des écoles d'art que j'ai eu ma place, c'était Strasbourg. Et du coup, je me disais que c'est une grande école. Beaucoup d'ateliers différents, que je peux apprendre plusieurs choses différentes. Voilà, je suis venue ici. Puis après, en sortant de l'école, je continue toujours ma carrière, dans ces régions.
Est-ce que vous avez appris quelques mots d'alsacien?
Schkilt, oui.
Schkilt. Vous connaissez les gros mots aussi?
Pas vraiment.
Non.
Personne m'a appris ça.
Voilà. Mais alors, question qui est peut-être trop personnelle, mais pourquoi avez-vous quitté la Corée?
C'est une question... Oui. Pourquoi j'ai quitté? Parce que, tout simplement, j'ai décidé de venir en France. Avant, en Corée, j'ai étudié à Sciences Po. Mmh. Et du coup, ma spécialité, c'était plutôt l'analyse de politique dans le domaine spécifique aux sciences et technologies.
Oui.
Puis, j'ai travaillé en cours dans un bureau qui organise les expositions d'art. Et à la fin, je me disais que, OK, j'aimerais bien faire l'art. Et à ce moment-là, notre bureau, on a beaucoup travaillé avec l'équipe française, qui sont l'équipe de montage, qui sont l'équipe d'organisation des expos. Et très naturellement, comme mes entourages, ils étaient français, je m'entendais bien avec eux. Je me disais que, OK, j'aimerais bien faire l'art. Je vais aller en France pour étudier l'art où mes amis, ils sont là.
Je vais faire une blague un peu, comment dire, rigolote. Vous aimez le lard? Hein, et donc en Alsace, nous, on fait Sivelenspeck, la tarte flambée, avec du lard et des oignons.
Oh, ok.
Voilà, oui. Ben, nous, on aime bien le cochon, c'est pour ça. Voilà. Mais alors, vos œuvres, c'est pas seulement de l'art théorique, c'est aussi vous-même. Donc ça, c'est très concret, puisqu'il y a des œuvres d'art qui sont votre danse. Vous dansez. Racontez-moi ça. Et alors, en plus, vous dansez autour de gobelets.
Oui.
Alors, les gobelets, ce n'est pas rempli de Gewürztraminer. Hein, non,
non, malheureusement, oui, c'est un gobelet vide. Alors, du coup, pendant mes études à l'école d'art ici à Strasbourg, à la IR, moi, j'étais à l'atelier de verre. Et du coup, j'ai appris pendant 4 ans soufflage de verre, la technique.
Ah oui?
Oui.
C'est en Moselle, hein, je crois qu'il y a des écoles. Il y a la LIC, hein, tout ça. Donc, vous êtes allé là-bas
La LIC, j'ai juste visité le musée, mais oui. Je n'ai pas visité l'usine, oui.
Non.
Oui.
Oui. Et donc, vous avez fait du soufflage de verre à l'École des Beaux-Arts de Strasbourg.
Oui, du coup, j'ai appris pendant 4 ans le soufflage de verre, ce savoir-faire. Et ça m'a beaucoup fascinée, surtout les gestes des verriers.
Oui. Ouais.
Parce que j'avais un peu l'impression que le verre fusion, qui est très malléable, qui est fascinant, qui absorbe toute attention des gens, et du coup ça casse un peu qui sont derrière. Mm-hmm. Ça veut dire que le corps des artisans, le corps des artisans qui manipulent vraiment la matière, la technique, le savoir-faire, voilà.
C'est à la fois fragile... Et en même temps, ça demande une dextérité, une précision, parce
tout
que ça refroidit très vite,
tout
ça risque
fait.
De casser, ouais. On risque de se brûler aussi, c'est dangereux.
C'est, ouais.
C'est tout ça qui vous a plu, qui vous a fasciné?
Oui, ça m'a fasciné beaucoup. Mais le geste très détaillé, le geste codifié et leur répétition perpétuelle. Ouais.
Alors ça, c'est la source de vos danses?
Oui,
le geste du semeur, mais le geste du souffleur.
Oui, voilà, le geste du souffleur, ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, en fait, j'ai commencé à penser, OK, j'aimerais bien faire un projet qui fait un hommage aux artisans, qui m'inspire. Et du coup, je me disais, OK, en fait, je vais reprendre tous les gestes qui sont dans une fabrication d'un objet soufflé en verre. En danse, ou soit en geste chorégraphique. Mm-hmm. Du coup, première pièce que j'ai fait dans ce cadre de ce projet, c'était autour de la fabrication d'un gobelet. Ouais, j'ai repris tous les gestes dans la fabrication, puis j'ai transformé, je les ai transformés en danse.
Oui, vous avez fait une transposition.
Voilà, voilà. Oui. Du coup, et en même temps, j'ai beaucoup expérimenté les différents niveaux de transition entre les gestes techniques et les gestes chorégraphiques.
Est-ce que vous aviez fait de la danse classique lorsque vous étiez une petite fille? Vous avez fait du ballet?
Ouais, quand j'étais petite, j'ai fait la danse classique. Puis j'ai fait la danse jazz, jazz funk. Ouais. Puis maintenant, je fais beaucoup plus hip-hop.
Ah oui?
Ouais.
Et est-ce que vous écoutez de la K-pop, la musique coréenne?
À l'époque, quand j'étais petite, quand j'étais en Corée, bah, quand j'étais lycéenne, ouais. Mais maintenant, j'écoute presque.
Et vous étiez habillée comme on voit sur les pochettes de disques de K-pop, là, avec les petites, les deux couettes et les petites robes.
Ouais.
Oui.
De quoi?
Quand vous étiez comme ça, lorsque vous étiez
gamine. J'ai pas compris. Pardon.
Vous savez, sur les pochettes des disques de K-pop. C'est très folklorique, enfin c'est pas folklorique, mais c'est très c'est des clichés comme ça, c'est des petites filles très très jeunes, adolescentes, avec des couettes, elles ressemblent un peu à Sheila. Bon, Sheila c'est pour les vieux auditeurs quand même, mais il y a une sorte d'image très stéréotypée. Est-ce que vous étiez non?
Je pense que ça dépend, parce que l'image stéréotypée, ça existe partout. Par exemple, ici, pop français ou soit pop américain, on peut toujours regarder les albums qui a les images stéréotypées. K-pop, c'est pareil. Ouais, peut-être certaines images, pour certains albums, il y aura images stéréotypées, mais il y a aussi les images cool qui est presque comme l'art.
Voilà. Ouais. Est-ce que vous retournez souvent en Corée?
Oui, une fois par an à peu près.
Pour voir la famille, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça et tout.
C'est ça.
Et est-ce que vous avez l'occasion de parler le coréen ici à Strasbourg?
L'occasion de parler le coréen. Des fois, avec mes amis, oui. En fait, je donne quelques mots. J'apprends quelques mots aux amis. Ouais. Mais sinon, pas beaucoup.
Parce que si vous étiez américaine, les gens vous diraient « Ah, je vais apprendre l'anglais avec toi, c'est formidable et tout. » Est-ce que les gens ont envie d'apprendre le coréen?
En ce moment, oui, il y a quand même... Il y a
des cours
demandes.
De coréen à la fac à Strasbourg.
Ok.
Oui.
Je ne sais pas.
Ah non, je vous posais la question, non, vous ne savez pas.
Et parce que moi, je n'étais pas à la fac à Strasbourg, j'étais à la IR, c'est une école qui est séparée avec la fac.
Oui, mais enfin, sur le campus.
Je ne connais pas trop,
Et le restaurant universitaire, c'est le même.
Je pense,
Vous n'alliez pas à Gallia, comme ça?
Oui, on peut y aller, mais moi, je ne suis pas trop... Non. Fréquenter là-bas.
Non, voilà. Et est-ce que vous connaissez d'autres Coréens à Strasbourg?
Il
y a une communauté, à part les restaurants coréens. Sont souvent vietnamiens, d'ailleurs.
Oui, forcément, il y aura la communauté coréenne. Mais moi, je connais juste quelques amis coréens, coréennes. Mm-hmm. Et après, je ne connais pas tous globalité
en fait,
de la communauté.
Vous êtes une artiste et vous n'êtes pas lié à cette racine, voilà. Est-ce que votre grande activité vidéo, qui est quand même importante, est-ce que vous allez le développer? Est-ce que ça va être ça maintenant la suite de votre carrière artistique?
Je dirais pas que c'est ma carrière artistique, développement vidéo. Plutôt, c'est un médium que j'utilise souvent depuis mes études. Ouais. Et évidemment, en fait, pour le prochain projet que j'envisage à faire en ce moment, ce sera réalisé en format vidéo et puis installation vidéo avec plusieurs écrans différents. Du coup, oui.
Alors ça, ce sont des installations. Le public doit se déplacer pour les voir. Mm-hmm. Mais ce sont des installations qui sont éphémères. Après, ça n'existe plus.
C'est ça, oui.
Oui.
C'est
vrai. Ça vous intéresse de ne pas passer à la postérité comme si vous faisiez une peinture, une sculpture ou un livre? Non, c'est un concept que vous acceptez, le fait que votre œuvre va disparaître?
Je ne sais pas, je n'ai pas pensé dans ce sens-là, mais c'est juste que mon projet, surtout comme on vient de parler, les gestes verriers, du coup, en ce moment, je prépare troisième pièce dans le cadre de ce projet. Et après, ce projet, ça adapte bien avec le format vidéo. C'est pour ça que j'utilise ce médium, mais je n'ai pas forcément pensé que, oui, en fait, mon œuvre, bah, j'aimerais bien que c'est très éphémère.
Bah, qu'elle soit fixée quelque part. Quels sont les artistes ?
Je n'ai pas pensé à ça, oui. Mais peut-être, il y a ça. Oui.
Vous perturbez. Quels sont les artistes contemporains qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré ?
Il y en a beaucoup, oui. Mais plutôt, en fait, quand il y a une question comme ça qui m'est venue, moi, je parle toujours une pièce d'un artiste. C'est une pièce de Ólafur Eliasson. Mm-hmm. J'ai déjà oublié en fait le nom de ces pièces. En gros, il a installé 12 icebergs, grands icebergs, devant le Panthéon à Paris, en forme de cercle. Du coup, il a dessiné en fait le cercle avec 12 icebergs, gros icebergs.
En plastique ou en...
Non, en vrai en fait. Il a ramené ça du genre pôle nord au pôle sud, oui. Voilà.
Ah oui.
Ouais, il a vraiment ramené jusqu'à Paris.
Et il ne fallait pas que ça fonde en cours de route. Donc c'était un exploit technique aussi.
Peut-être.
Voilà, d'accord. Ouais. Donc c'est des choses.
Ouais, parce qu'en fait, ces pièces, c'est une pièce que j'aime bien. Et surtout, ça me touche beaucoup. Parce que ça me donne vraiment une motivation et aussi l'inspiration. Pourquoi moi, je veux faire là et dans quel sens j'aimerais bien mener en fait, mon art. Parce que ces pièces, ça parle de réchauffement climatique. Vous voyez, en fait, c'est un sujet très socio-politique et écologique.
L'environnement
écolo, ça parle
la
beaucoup de choses.
La catastrophe climatique, oui.
Oui, mais par exemple, dans le journal et aussi dans le journal télé, on parle de ça. Et dans le documentaire, film documentaire, on parle beaucoup de ça. Mais en même temps, par exemple, une pièce d'art qui fait sentir, qui fait ressentir en fait l'urgence vraiment de près, avec une poésie. Ça
me fait penser au Bed In de John Lennon et Yoko Ono, qui avait passé une semaine au lit, qui était considéré comme une œuvre d'art, et c'était pour dire « give peace a chance », pour faire la paix. Et donc là, c'est pour alerter les gens... sur la catastrophe climatique et tout cela.
Ouais, en fait, le message peut être très, très, très fort, qui vient de l'art.
Mais est-ce que les artistes doivent s'engager comme cela? Parce que, bon, on est en 2025, alors on peut attendre une révolution culturelle, un peu, vous savez, en France, on a eu mai 68, je ne sais pas si c'est pour vous une référence, est-ce qu'on peut imaginer un grand mouvement mondial, donc en 2025, de révolution culturelle ou d'évolution culturelle, alors qu'on a des contraintes très pragmatiques, il y a la guerre en Ukraine, il y a les drames du Moyen-Orient, le terrorisme, les catastrophes climatiques... est-ce que dans tout ce magma terrifiant, est-ce qu'il y a encore une place pour les artistes?
Est-ce que vous me demandez plutôt les artistes doivent être engagés ou soit je suis un peu perdue.
Est-ce qu'on peut faire de l'art pour l'art?
Oui. Il n'y a pas d'obligation en fait. Dans l'art, moi je me dis. Parce que, par exemple, au départ, vous m'avez demandé est-ce que les artistes doivent être engagés. Moi, je dis, non, pas forcément. Si on demande c'est quoi la place d'artiste dans notre société, forcément, on doit en parler, en fait, avec notre art. Mais ce n'est pas obligé non plus. Mmh. Ouais. Par contre, il y a la place d'artiste, on peut quand même donner notre voix. Oui, toujours.
Voilà. Oui. Alors, Dimei, votre nom d'artiste, Jiangbin Li, votre nom. Pour conclure notre émission, je vais vous demander comment on fait pour aimer l'Alsace. Est-ce qu'on mange de la tarte flambée au nom des Krumberkeschle, des Bädele ou de la tarte au fromage? Qu'est-ce qu'on fait pour aimer l'Alsace?
Qu'est-ce qu'on fait pour aimer l'Alsace? Il faut faire une soirée avec le thème alsacien, alsacienne.
Ah oui.
Je pense que c'est ma façon d'aimer l'Alsace.
Et vous faites ça, oui. Alors, c'est une blague qu'on répète souvent, juste comme c'est la fin de l'émission. Vous savez la différence entre la Bretagne et l'Alsace?
En Bretagne, on mange la galette.
Oui.
Ici, la tarte flambée.
Voilà. Et alors, on a un choucroute. Truc, c'est la choucroute. Vous citez la choucroute. Roger Siffert, à la choucrouterie, il dit toujours... En Bretagne, ils ont l'océan. Mm. Et nous, en Alsace, on a la mer Bière. Voilà, bon, c'est une petite astuce, voilà, c'est drôle. Voilà, c'était super. L'épisode numéro 120, Bisous sur l'oreiller, Yongbi Lee Dimae. Alors, je dois dire que cet enthousiasme artistique peut nous inspirer pour passer un bel été. Quand vous voyagez, est-ce que vous allez visiter tous les musées des villes où vous séjournez? Oui.
Pardon.
Est-ce que vous visitez tous les musées quand vous allez dans une ville comme ça et tout?
Pas forcément.
Non,
ouais.
Non, non.
En fait, ça m'intéresse plus la vie.
Bon, alors, c'est en tout cas une proposition pour les gens qui vont partir en vacances. C'était donc, vous l'avez bien connu, sur Radio Judaïka Strasbourg. Et voilà, la grille d'été des programmes va commencer. Il y aura des rediffusions de toutes nos interviews que vous pouvez bien entendu réécouter en podcast sur le site de la radio. J'étais très heureux d'avoir l'écoute attentive et amusée, et parfois insolite, et souvent complice des auditeurs de Radio Judaïka Strasbourg. Vous l'avez bien connu, une émission culturelle, sans contrainte ni personne, avec son générique inspiré du film d'Hitchcock, L'Inconnu du Nord Express, et du western. Mon nom est Personne. Merci à toute l'équipe. Merci à Thomas Marinelli, toujours à la technique. On se retrouve bientôt. Et mon nom, c'est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. No!